On va venir à la théologie maintenant et voir comment saint Thomas d'Aquin a parlé du sacrement de confession. Il le faut. C'est très important parce que c'est la doctrine, donc le dogme. Il faut savoir ce que l'Église définit comme tout à fait nécessaire. Et on va voir si nous sommes complètement en dehors, hein, n'est-ce pas? La pénitence est-elle un sacrement? Il y a 7 sacrements, vous savez. Hein. Et puis en plus, ça va nous reposer parce que je ne voudrais pas quand même que tout le monde monte au plafond. Hein. Alors on redescend un peu. C'est les objections, parce que comme vous n'avez pas d'objections, hier vous m'avez donné des objections, mais là on va prendre les objections. Mais c'est pas un sacrement. Eucharistie d'accord, baptême d'accord. La confession inventée au XIIe siècle. Il y a plein de gens qui vous disent ça. Beaucoup de théologiens aussi. Pas un sacrement. Beaucoup de théologiens catholiques. Il semble que la pénitence ne soit pas un sacrement, puisque saint Grégoire, quand même. Saint Grégoire dit que les sacrements sont le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, qui sont appelés sacrements parce que, sous le voile de choses corporelles, la puissance divine y opère le salut d'une manière mystérieuse. Mais cela n'a pas lieu dans la pénitence, puisqu'on n'y emploie aucune chose corporelle. Sous le voile de la puissance, de laquelle puissance divine opère le salut, donc elle n'est pas un sacrement. Il n'y a pas de matière physique. Or, tous les sacrements, il faut quelque chose de physique. Là, ce n'est pas physique. C'est la matière de la confession, c'est la contrition. La résolution de se séparer du mal. Et puis, l'aveu. Il n'y a rien de physique là-dedans. Alors, l'incarnation, où est-ce qu'elle est? Le verbe a pris cher et il n'y a pas de matière, donc c'est pas un sacrement. Joli, ça. C'est pas mal. D'ailleurs, les sacrements de l'Église sont conférés par les ministres du Christ, selon ce que dit l'apôtre, que les hommes nous considèrent comme les ministres du Christ et les dispensateurs des sacrements de Dieu, des mystères de Dieu. 1 Corinthiens 4, 1. Donc même l'Écriture dit ça. Et justement, la pénitence n'est pas donnée par les ministres du Christ, mais c'est Dieu qui inspire intérieurement ce sentiment aux hommes, selon ce qui est dit dans Jérémie. Après que vous m'ayez converti, j'ai fait pénitence. Il semble donc que la pénitence ne soit pas un sacrement. Ben oui, c'est moi qui me convertis, qui me confesse, hein, et puis qui reconnaît mes péchés, et puis qui demande pardon à Dieu. Je suis pardonné dès le départ, avant d'avoir vu le prêtre, en plus. Et c'est vrai. Alors, donc. En plus, troisième objection. C'est vachement bien, saint Thomas, parce qu'il prend toujours les arguments qu'on va trouver jusqu'à la fin du monde, hein. De plus, dans les sacrements dont il a été question précédemment, l'Eucharistie, le baptême, il y a ce qui est seulement le sacrement, ce qui est le sacramentum tantum, ce qui est la res et sacramentum, alors là, je vais m'arrêter un petit peu, et ce qui est la res du sacrement. Ça, c'est saint Augustin, je vais m'arrêter, vous inquiétez pas. C'est important de regarder ça. Ainsi qu'il est évident d'après ce qui a été dit. Or, tout cela ne se trouve pas dans le sacrement de pénitence, elle n'est donc pas un sacrement. Oui, dans tout sacrement, il y a d'abord le signe, la matière brute, la petite carmélite qui prend de la farine, de l'eau, puis qui fabrique des hosties, bon, la matière brute. Mais cette matière brute va être donnée à l'Église, puis ça y est, on a le pain et le vin. Alors le prêtre met le pain dans la patène et le vin dans le calice, ça y est, c'est du pain et du vin, c'est encore la matière. Mais c'est un signe, c'est signum. Mais dès que c'est sur l'autel, ah, attention, c'est un signe qui révèle le mystère. Donc il y est, c'est le sacramentum, c'est un signe, c'est un pur signe, sacramentum tantum. Puis après il va consacrer Et donc il va y avoir la réalité divine, res et sacramentum, dans le signe. Puis après, je communie. Le pain est digéré, le vin est digéré, et ils disparaissent, les accidents du pain et du vin disparaissent, il ne reste plus que la res, il ne reste plus que la réalité divine. Dans tous les sacrements, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire l'action de grâce. Et le but de la communion, c'est qu'on ne vive plus qu'avec la res, avec le fruit, avec la présence réelle, sans le sacrement lui-même. Le sacrement n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est ce qui vient après. La coquille du sacrement disparaît par la digestion dans l'Eucharistie, c'est facile à comprendre, et il ne reste plus que la réalité elle-même. Bah, où est-ce qu'il y a la digestion là-dedans? Il n'y a pas de digestion, puisque la matière, elle est dissoute. La consécration et la dissolution, c'est en même temps. Donc, il n'y a pas sacramentum tantum, sacramentum tres, sacramentum res. Or, saint Augustin a dit que pour qu'il y ait un sacrement, il faut passer du signum et res, c'est-à-dire la matière brute qui se balade, et puis l'Esprit Saint qui se balade ailleurs, le sacramentum tantum, la préparation à recevoir la res, le sacramentum et res, le passage ensuite à la res. Alors, voyez, bon, ça c'est un argument très théologique, hein, parce que je m'appuie sur saint Augustin, parce que c'est l'Eucharistie qui est le modèle de tous les sacrements. Alors, apparemment, bah, l'Eucharistie n'a rien à voir avec ce sacrement, l'Eucharistie ne m'éclaire rien du tout sur ce sacrement, si c'est un sacrement. Moi je viens de vous démontrer le contraire, c'est pour ça que vous voyez que c'est absurde, puisqu'on vient de voir exactement le contraire. Mais là, les gens ils disent, bah oui, ça n'a rien à voir. Ben, le prêtre, il est là ben, pour que je n'ai pas de sentiment de culpabilité. Bon, maintenant, il suffit de remplacer par le docteur, puis c'est tout. Sept contrats, réponse de saint Thomas. C'est le contraire qui est vrai. Ça. Allez, prends ça dans les dents. Puisque la pénitence, comme le baptême, est établie pour purifier les hommes de leurs péchés. Et c'est pourquoi l'apôtre Saint-Pierre, dans les Actes, chapitre 8, verset 22, dit à Simon le magicien, « Fais pénitence de ton iniquité. » Or, le baptême, comme il a été dit, est un sacrement. La pénitence, par une égale raison, est aussi donc un sacrement. Ah, vous n'avez rien compris, mais ça fait rien. Vous avez compris quand même? Alors il va expliquer, ne vous inquiétez pas. Et donc, j'explique ce que je viens d'affirmer en disant que, comme l'observe saint Grégoire, dans l'argument 1 de son manifeste, un sacrement consiste dans la célébration d'une action qui a pour but de signifier un signe, une chose, res, que l'on doit recevoir saintement. Or, il est manifeste que ce que l'on pratique dans la pénitence a pour but de signifier, signum, qu'il s'agit de quelque chose, res, de saint, par rapport au pécheur repentant, sacramentum, aussi bien que par rapport au prêtre, sacramentum, qui confère l'absolution. Car le pécheur repentant témoigne par ce qu'il fait et ce qu'il dit que son cœur s'est éloigné du péché, comme aussi le prêtre, d'après ce qu'il fait et ce qu'il dit à l'égard du pénitent, exprime l'œuvre de Dieu qui remet les péchés. Donc il y a bien un signe et il y a bien l'œuvre divine. Donc il y a les deux. D'où il suit évidemment que la pénitence qui s'exerce dans l'Église est un sacrement. Il faut donc répondre à la première objection. Vous voyez ? La première objection, c'était de dire que Saint Grégoire disait que les sacrements sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, parce que là, au moins, il y a une matière physique. Eh bien, la première difficulté, il faut y répondre. En expliquant que par la notion de chose physique ou corporelle, on peut entendre aussi, dans le sens large, les actes concrets qui sont livrés à la confession pour ce sacrement, et qui est ce que l'eau est pour le baptême et le Saint-Crème pour la confirmation. Ce sont des actes concrets quand même, bien incarnés. Or, il faut remarquer que c'est dans un corps qu'on les a faits. Or, il faut remarquer que dans les sacrements qui confèrent une grâce qui dépasse tout ce qu'un homme peut faire, eh bien, on emploie extérieurement une matière physique, corporelle, matérielle, comme dans le baptême, où on reçoit la pleine rémission des péchés, soit quant à la coupe, soit quant à la peine. Et dans la confirmation, on reçoit la plénitude du Saint-Esprit. Et dans l'extrême onction, où on reçoit la parfaite santé de l'âme, qui provient de la puissance du Christ, comme d'un principe extérieur. Aussi, s'il y a quelques actes humains dans ces sacrements, ils ne font pas partie de l'essentiel des sacrements. Mais ils s'y rapportent comme des dispositions. Mais dans les sacrements qui produisent un effet correspondant aux actes humains, ces actes sensibles tiennent la place de la matière. C'est très beau, ça. Dans le baptême, il n'y a pas la disposition correspondante intérieurement. C'est tout à fait autre chose. Dans le pain et le vin, il n'y a aucune prédisposition à recevoir le corps ressuscité du Christ, aucune. Alors c'est normal. Tandis que dans le mariage, par exemple, où est la matière ? C'est pas l'anneau. Ah, s'il n'y a pas d'anneau, il n'y a plus de mariage. Mais si, s'il n'y a pas d'anneau, si ce n'est pas un anneau en or, pas de mariage. Non. C'est l'amour des époux. Mais l'amour des époux est une signification proportionnée à l'amour de l'époux et de l'épouse dans la très sainte Trinité, le Père et le Fils. Donc, il n'y a pas de problème, puisque c'est une disposition analogue, mais concrète, incarnée, dans le temps. Et à chaque fois que, dans un sacrement, il y a une prédisposition, il n'y a pas besoin d'une matière pour signifier l'absence de cette prédisposition dans le cœur de l'homme. Et puis c'est tout. Ça, c'est beau, ça. Bon, deuxième objection, c'est pas les prêtres, puisque c'est vous qui demandez pardon, c'est vous qui recevez le pardon même avant même d'avoir reçu l'absolution, pour ainsi dire. Et du reste, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de sacrement, et le Kippour, tout le monde était pardonné. Tous ceux qui assistaient au Kippour, Dieu le dit à Abraham, tous ceux qui assistent là, tout Israël est pardonné le jour du Kippour. Tous ceux qui participent à la fête des tabernacles, tous. Les prêtres sont pardonnés par le sacrifice des 70 taureaux, etc. Et tout. C'est une fête de vrai pardon, c'est institué par Dieu. Bon, maintenant, ça n'a plus lieu, puisqu'il n'y a plus de temple de Jérusalem, et vous ne verrez jamais la fête du Kippour telle que Dieu l'a demandé à Moïse. Donc, effectivement, le pardon par l'absolution, j'allais dire, de la fête du Kippour et de la fête des tabernacles n'existe plus. Elle n'est plus efficace, en tout cas. Et il est donc remplacé par le sacrement du Christ. Donc, il faut répondre à la seconde difficulté, que dans les sacrements qui ont pour matière quelque chose de physique et de matériel, de corporel, il faut que cette matière soit employée par le ministre de l'Église, qui tient la place du Christ pour signifier que la grandeur de la puissance de celui qui opère vient du Christ. Or, dans le sacrement de pénitence, ainsi que nous l'avons dit, dans la solution de la précédente difficulté, il y a comme matière les actes humains qui ont leur principe dans l'inspiration intérieure, la contrition. C'est la contrition qui est la matière du sacrement de pénitence. Et par conséquent, ce n'est pas le ministre qui emploie la matière, mais c'est Dieu qui opère intérieurement dans le pénitent. Or, le ministre fournit le complément du sacrement en donnant l'absolution. Tu oublies quand même que c'est le prêtre qui donne l'absolution. Oh ! Alors, vous voyez, donc tu as besoin du prêtre. c'est un mystère quand même d'amour. Hein. Tant qu'il y a une complémentarité, c'est normal. On a un petit enfant blessé et le prêtre, c'est la mère. Hein. Il faut répondre à la troisième difficulté, que dans le sacrement de pénitence, on trouve ce qui est seulement la res du sacrement, le fruit du sacrement. Savoir que l'acte extérieur, soit du pécheur repentant, soit du prêtre qui absout. Pardon, je répète. Il faut répondre à la troisième difficulté, que dans le sacrement de pénitence, on trouve, il y a quelque chose du sacramentum tantum, à savoir l'acte extérieur, soit du pécheur repentant, soit du prêtre qui absout. Il y a quand même un sacrement, puisque le prêtre, à travers le prêtre, c'est le Christ qui pardonne. C'est un sacrement, ça. Et entre le prêtre et le pénitent, il y a la présence du Christ à partir du moment où la confession commence. Donc il y a bien un sacrement. Il y a bien un signe efficace qui fait la présence. Hein. Et oui, quant à ce qui est la res, quant à ce qui concerne la res et sacramentum, c'est la pénitence intérieure du pécheur. Oui. Vous voyez, ça, c'est magnifique, ça. La contrition, c'est pour ça. Vous avez déjà le pardon dans la contrition. Vous avez la res et sacramentum. Et le sacramentum vient quand vous êtes en face du confesseur. Parce que dans l'Eucharistie, c'est le sacramentum qui vient d'abord, offertoire, le pain et le vin, et la res et sacramentum à la consécration. Vous voyez, il y a un ordre différent. Ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est très, très beau pour voir, justement, la différence qu'il y a de complémentarité. Je vous l'avais dit d'une autre manière ici. Hein. Dans l'Eucharistie, vous passez du don à l'accueil, et dans la confession, dans l'Eucharistie, vous passez de l'accueil au don, et dans le sacrement de pénitence, vous passez du don à l'accueil. Vous l'avez là, vous voyez. La res et le pardon y est déjà. C'est le sacrement de la réconciliation avant de trouver le confesseur. Mais comme vous êtes dans la contrition et du coup vous voulez vous débarrasser du mal, vous avez le pardon, mais vous avez encore le péché et le désir de la pénitence. Et la pénitence, donc vous avez res et sacramentum là. Et puis vous allez voir la sacramentum, c'est-à-dire le sacrement. Vous allez au sacrement avec ça. Parce que c'est la rencontre du res et sacramentum avec le sacramentum qui permet à la res d'être seul après. Il ne reste plus que la res, il ne reste plus que la réalité efficace, seule. Et il faut que ce soit comme ça, puisque là, il faut vraiment que le sacramentum, l'aspect du signum, justement, enfin, l'aspect du signe, l'aspect de la matière brute, il faut vraiment qu'elle disparaisse. Hein. Donc il faut le catapulter par un moyen particulier. Et ce n'est pas la dissolution de l'estomac qui va le faire, qui va faire qu'il n'y ait plus que la res, qu'il n'y ait plus que le fruit. Donc, quant à ce qui concerne la res tantum, c'est la rémission des péchés. De ces trois moments du sacrement, c'est-à-dire les actes extérieurs, la pénitence intérieure du pécheur et la rémission des péchés, la première considérée dans son ensemble est la cause de la seconde, et la première et la seconde sont la cause de la troisième. Donc il s'agit bien d'un sacrement, selon ce que dit saint Augustin. Il y a donc bien sacramentum et res, sacramentum tantum, et reste en tourne. Simplement, vous n'avez pas vu parce que c'est dans un ordre différent, c'est tout. C'est doué, saint Thomas. Hein? Mais attention, Jésus a bien pensé son truc, hein, vous savez. C'est bien foutu. Hein? Les sacrements, ils sont complémentaires. Alors, j'ai exactement 2 minutes ou 1 minute 30 pour terminer. Est-ce que les péchés sont la matière propre de ce sacrement? Je réponds et je dis qu'il y a 2 sortes de matière. La matière prochaine, la matière éloignée. C'est ainsi que la matière prochaine du statut est le métal qui la compose et la matière éloignée est l'eau. Or, nous avons dit que la matière prochaine de ce sacrement consiste dans les actes du pénitent qui ont pour matière les péchés dont il se repent. Donc, les péchés dont il se repent, qu'il confesse et qu'il désire satisfaire. Voilà la matière du sacrement. C'est les péchés, la matière brute, dont il se repent, qu'il confesse et dont il veut satisfaire. Il veut s'en séparer. Il s'en séparera en effet par la pénitence. C'est ça la matière. Est-ce que la forme de ce sacrement est correctement énoncée par les mots « ego te absolvo » ? Est-ce que ça suffit ? Ou est-ce qu'il faut que le prêtre dise tout, sinon il n'y a pas de sacrement ? Oh, sacrement invalide, il n'y a pas la forme. Effectivement, s'il dit à l'Eucharistie, s'il dit ceci, ceci est le monde rempli d'amour, ceci est le cosmos tout entier, ceci est la joie de tous les pécheurs dans le Christ, il n'y a pas d'Eucharistie. Ou s'il dit simplement ceci, au lieu de ceci est mon corps, ceci est ma chair, ceci est mon sang, pas d'Eucharistie. Il faut la forme. Il faut les paroles du Christ révélées. Alors, si l'évêque il te confesse et puis il dit, bon, moi je suis évêque, allez, je te dis, bon, tu as dit tes péchés, bon, eh bien, je te pardonne. Mais enfin, Monseigneur, vous ne m'avez pas confessé. Vous ne m'avez pas pardonné, là. Est-ce que le sacrement est valide ? Le sacrement n'est pas valide. Si, si, ego te absolvo. Ego te absolvo, ça suffit. Il fait quand même, entre nous soit dit, un péché véniel. Parce que l'Église demande qu'il mette toute la formule canonique du sacrement. Donc le sacrement est valide, mais il n'a pas le droit de l'amputer de ce qui l'enveloppe. Pour exprimer l'exhortation, le silence et la glorification. C'est comme un prêtre qui dirait la messe en disant « Je prends le pain, je prends le vin, je supprime la parole de Dieu, je supprime tout ça, et puis je prends, allez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Il y aurait le sacrifice de la messe, mais il fait une faute. C'est valide, mais c'est pas, il n'a pas le droit. Lui, mais ceux qui reçoivent la communion reçoivent le Christ dans l'Eucharistie. Réponse. Alors là, il y a cette objection, et lui, il dit « Mais c'est le contraire de tout ce que se disent ces imbéciles, puisque... » Non, il n'a pas dit imbécile. « De même que le Seigneur dit à ses disciples, « Allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De même, il dit à Saint-Pierre, « Tout ce que vous délirez sur la terre, Matthieu 16, verset 19, sera délié dans les cieux. Or, le prêtre, autorisé par ces paroles du Christ, dit, « Je vous baptise, puisqu'il a dit, « Allez, baptisez-les. » Alors le prêtre dit, je vous baptise. Et par conséquent, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et par conséquent, appuyé sur la même autorité du Christ, il doit dire en conférant le sacrement de la confession, je vous absous. Je vous pardonne. Voilà. Mais ça, aujourd'hui, on dirait c'est le Concile de Trente. Le Concile de l'Église a dit... La forme du sacrement de pénitence, c'est « ego te absolvo ». Je te pardonne. Alors, tout est péché, si vous voulez. L'imposition des mains est-elle requise pour ce sacrement ? Le Christ n'a fait aucune mention de l'imposition des mains quand il a dit à Pierre « tout ce que vous aurez délié sur la terre, etc. » Ni même que lorsqu'il dit à tous les apôtres, les péchés seront remis à qui vous les remettrez. L'imposition des mains n'est donc pas requise pour conférer ce sacrement. Oui, ça c'est pas sans doute parce qu'il y avait des uluberlus qui devaient dire, il faut imposer les mains, sinon c'est pas valide à cette époque-là. Bon, est-ce que ce sacrement est de nécessité de salut ? Réponse. Ben non, c'est pas nécessaire hein, pour être sauvé. Pas du tout. Ben, je me confesse tout seul. Mais c'est le contraire que dit le Seigneur. Comme on le voit dans Saint-Luc, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous, pareillement. Comme dans le déluge. Mais attention, voyez bien que res et sacramentum, c'est celui qui fait pénitence, qui est contrit, qui veut demander pardon. Mais si, il a le sacrement. Mais évidemment, si vraiment, c'est ça. Dès qu'il a l'occasion, il se le fait pardonner, évidemment, puisqu'il y a res sacramentum. Alors peut-être que ce sera au moment de sa mort. Peut-être que ce sera au moment de sa mort, peut-être que ce sera entre la mort et l'apparente et la mort réelle qu'il va rencontrer le prêtre, c'est-à-dire le Christ, qui donnera l'absolution. Mais il faut qu'il passe par l'absolution, sinon il n'est pas sauvé. Mais si à sa mort il n'est pas dans cette contrition, il n'y aura pas l'absolution entre la mort apparente et la mort réelle. Ça non, sûrement pas. Mais c'est une nécessité de salut. Qui passe pas par l'absolution, donc celui qui n'a pas la contrition et l'intention vraiment de recevoir l'absolution radicale du prêtre. Pour les catholiques, ils savent que le prêtre est présent à travers. Bon, et puis il ne veut pas attendre le jour de sa mort, il veut participer à la co-rédemption, quand même. Il veut vivre de la res, hein. Oh, il veut un petit peu que ça avance, hein, que le péché. Ça démarque. Est-ce que la pénitence est la seconde planche de salut après le naufrage? Oui, ça, je m'en fous. Bien sûr, puisque c'est le baptême qui est la première planche de salut. Hein? Oui, bien sûr. Est-ce que c'était convenable que ce sacrement soit institué sous la nouvelle loi? Mais oui, sous l'ancienne loi, ce n'était pas possible, puisque le Christ n'était pas ressuscité des morts. Donc, il ne pouvait pas y avoir la res du sacrement, puisque dans la res du sacrement, c'est l'Esprit Saint qui confesse ce qu'il est dans la blessure du cœur de Jésus. Donc il ne pouvait pas y avoir avant la résurrection ce sacrement. C'est pour ça qu'il l'institue après la résurrection. C'est ce que l'Eucharistie l'institue avant la résurrection, parce qu'il s'est déjà incarné. Alors, si la pénitence doit durer jusqu'à la fin de la vie, oui, parce que ce n'est pas parce que tu es pardonné que du coup, tu ne cries pas « Pardon, Seigneur, pardon pour mes péchés et ceux du monde entier ». Au contraire, parce que tu es pardonné, tu vas crier encore plus « Pardon ». Non seulement pour les tiens, mais pour ceux du monde entier. Est-ce que la pénitence doit être continuelle? Oui, elle doit être continuelle, puisque saint Augustin dit que l'on conserve constamment dans la pénitence la douleur d'avoir commis le péché. Ah. Ouais. Ah non, je ne peux y penser, c'est toi. Mais si, que si l'on doit réitérer le sacrement de pénitence. Oui, dit à saint Pierre, 70 fois, 7 fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi ça, pour toi tu l'as réitéré tout le temps, tout le temps? Parce que même si tu n'as pas fait le péché 70 fois 7 fois, tu l'as fait qu'une fois, mais tu réitéreras 70 fois 7 fois, parce qu'il y a tout le péché du monde, oh! Mais ta contrition, elle demeure! Et tu as tout le péché du monde à envelopper de miséricorde sacramentellement. Ah, 70, ça veut dire le péché du monde, hein, les nations, hein, 70. Et 7 fois, l'humanité tout entière. Bon, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, merci à vous. Nous nous retrouvons dans une demi-heure. Que questions? Alors, nous allons un petit peu regarder ces questions. Que faut-il faire lorsque certains prêtres ne veulent pas confesser les enfants aux catéchisés au moment de leur communion privée? Priez pour eux. Il faut prier pour eux. Il faut écrire sur un bout de papier: je m'offre en victime pour ce prêtre. Et je demande à Dieu de faire ce qu'il voudra de moi, quoi qu'il en soit, pour que ce prêtre soit prêtre. Je m'offre en victime. Alors, vous aurez très mal aux oreilles si l'origine de sa faute, c'est qu'il a été sourd à l'appel de sa conscience. Vous allez avoir une otite épouvantable. Vous voyez ce que disait Saint Léopold? donc, dont on a lu la vie pendant le repas. Tout le temps, il écrivait comme ça sur des petites images, et je m'offre en victime pour tous les pécheurs que j'ai confessés. Il en confessait 50, 60 par jour, hein, puisque le dernier jour de sa vie, il a confessé, rien que pour les prêtres, 50 prêtres. Merde, il écrivait toujours, toujours. On en a retrouvé 66. Consécration victimale de Saint Léopold, 66. Je m'offre en victime pour ce prêtre. Que je saisis ce que c'est le mystère de la confession et je comprends que la reste du sacrement de confession, je sais que je suis victime et que je dois m'offrir en victime. Tu m'as donné un corps, voici, je viens. Je viens pour faire ta volonté. C'est ça. C'est ça la gloire. Mon péché est transformé en gloire. C'est-à-dire, je suis transformé en victime. Oui, mais c'est vrai que c'est pas... Les prêtres sont submergés. Alors, attention, n'allez pas dire, comment ça, vous êtes lamentable, etc. Vous amenez l'enfant à un prêtre qui peut le confesser. La plupart du temps, les prêtres séculiers ne sont pas disponibles pour ça. Regardez par exemple le père Jacques, qui vient de faire la profession de foi à 140 enfants. Comment voulez-vous, avec tout le travail qu'il a, avec en plus il travaille à l'hôpital psychiatrique, plus toutes ses activités comme aumônier artistique de l'art, etc. Avec tout ce qu'il a, comment voulez-vous qu'il reçoive ses 140 enfants à la confession. C'est pas possible. Alors, il y a les limites aussi. Il y a 150 ans, enfin, il y a, oui, c'est ça, il y a 150 ans, le moindre petit village comme Banassac avait son prêtre, comme ici même. Il y avait un prêtre ici. Un petit village de 50 habitants, il y avait un prêtre. Alors, c'est de là qu'on a pris l'habitude de l'Église de recevoir les sacrements comme il convient. Mais aujourd'hui, nous avons un prêtre pour 5000 habitants. J'ai un des frères de Saint-Jean qui vient de passer chez moi à l'ermitage. Bon, qui est un type extraordinaire, c'est un saint, c'est le père Jean-Marie. Et c'est un saint, bon, vraiment, vraiment. On l'a chargé. Je crois qu'il avait son certificat d'études, vous voyez, il est passé à la commission de Saint-Jean, finalement, on l'a ordonné prêtre. C'est lui l'aumônier de 2000 jeunes. Plus, il doit s'occuper de toute une fondation de compagnonnage. Plus, il a la vie communautaire. Plus, il a une paroisse. Et il est venu dans mon ermitage pour s'occuper de me sculpter un autel en pierre. Parce que je lui ai demandé, ça fait 3 ans que je lui demande. Et depuis 3 ans, il me dit, je pense à toi, je pense à toi. Et il a eu 1 heure pour venir il y a 3 jours. C'est pas pareil du tout que quand il y avait un prêtre pour 100 habitants, vous comprenez? Donc il faut comprendre aussi. Il faut comprendre qu'on a les prêtres qu'on mérite. Il ne faut jamais oublier ça. C'est Marie qui a enfanté le prêtre. Par excellence, on a le prêtre qu'on mérite. Donc on ne doit pas juger un prêtre parce qu'il est à l'image de notre ferveur. Croyez bien que si vous étiez vraiment immolé pour ce prêtre, dans les 9 mois, ça fait quelqu'un de... Mais c'est pas drôle l'immolation, c'est vrai. S'offrir en offrande victimale. Alors, il faut voir, vous comprenez, l'Église de la fin doit passer par la grande épreuve victimale. Comme Jésus, le corps de Jésus à la fin est passé par la grande épreuve victimale, prophétisant ainsi comme grand prophète de son corps mystique l'histoire de son Église, de son corps mystique. à la fin, comme au début, elle a été persécutée, et lui aussi, dans son enfance, il a été persécuté. Les trois premières années, il a été projeté en Égypte avec le massacre des saints innocents et tout. Et de la même manière, à la fin, il est broyé, l'Église doit être broyée. Et il doit y avoir la séparation de l'âme et du corps mystique de l'Église, la séparation. Séparation de l'âme et du corps. Alors, donc, que faut-il faire? Eh bien, il faut comprendre qu'on rentre dans les heures de l'Apocalypse. Et quand l'Antichrist sera là, il n'y aura plus d'Eucharistie. Ce ne sera plus possible. Ne croyez pas que ce soit pour dans 200 ans. Hein. Ça, c'est pas vrai. Ça, je peux vous dire tout de suite. C'est avant. Alors, on se prépare. Alors on vit autant qu'on peut pour l'instant. Mais il y aura toujours l'Eucharistie quelque part, si vous voulez, sur la terre. Et il y aura toujours un prêtre quelque part, sur la terre. Ça suffit qu'il y en ait deux. Hein. Lorsque certains prêtres critiquent le catéchisme de l'Église catholique, quelle attitude avoir? Eh bien, vous prenez un bout de papier et vous mettez « Je m'offre en victime » pour ce prêtre qui refuse la dimension de son sacerdoce. Vous savez que le sacerdoce donne trois pouvoirs au prêtre. Un pouvoir de sanctification, un pouvoir d'enseignement, un pouvoir de gouvernement. Il sanctifie le peuple par les sacrements. Un pouvoir d'enseignement, il transmet la doctrine infaillible de l'Église apostolique, issue directement de la bouche du Christ et transmise à travers les siècles de manière infaillible, s'approfondissant de plus en plus et s'adaptant exactement en fonction du langage du temps. Et un pouvoir de gouvernement, il a la grâce pour que ceux qui obéissent à ses conseils, si ces conseils sont conformes, bien entendu, au commandement de Dieu, il y a une grâce de gouvernement, de paternité, d'autorité. Dans une paroisse, on doit obéir au prêtre. On ne doit pas obéir à la mégère, qui a décidé que c'est elle qui dirige la paroisse. Non. Même si elle a plus d'autorité naturelle que le prêtre, on doit obéir au prêtre. Il y a un pouvoir de gouvernement. Il a autorité, on obéit au prêtre. Et c'est lui. Si quelqu'un me donne un conseil judicieux, c'est très bien, je dois le suivre en prudence humaine. Mais si le prêtre me dit, en tant que prêtre, je te demande de ne pas faire ça. En tant que prêtre, je te demande de ne pas faire ça. Ça passe tous les conseils de la prudence humaine. Parce que attention, s'il engage son sacerdoce quand il dit, je te demande de ne pas faire ça, ça vient du Saint-Esprit directement, présence réelle, sacramentelle, infaillible. Je me rappelle, par exemple, que quand j'étais jeune, étudiant, on m'avait mis dans l'équipe nationale d'organisation du pèlerinage de Chartres. À cette époque-là, il n'y avait qu'un seul pèlerinage de Chartres pour les étudiants. On était, je ne sais plus, 100 000, je ne sais plus combien. Et donc j'étais dans l'équipe nationale. Et alors, il y avait un père jésuite qui était l'aumônier de l'équipe d'organisation. Nous étions 6, 7 jeunes, et puis cet aumônier. Alors moi, j'étais un des deux responsables tactiques, n'est-ce pas? J'étais en train de faire une école de commerce vague, n'est-ce pas? Et j'avais trouvé génial, comme simple participant l'année précédente, qu'il y avait l'absolution collective. Ceux qui veulent demander pardon de leurs péchés se mettent à genoux. Ceux qui ne veulent pas restent debout. Et les prêtres avaient donné l'absolution comme ça. Mais j'avais dit, mais c'est génial ça. Et dans l'équipe d'organisation, j'avais dit, il faut faire ça. Ça, c'est génial. C'est génial. Et le prêtre a dit, c'était un jésuite. Donc le jésuite, il fait que ce soit les jeunes qui organisent tout et lui rien du tout. Ça, c'est la mission du jésuite. Ça. C'est le peuple qui fait. Ça. Mais là, il a dit non. Non, non, non. Tu dis quoi? Mais c'est ridicule. Il s'est mis en colère, etc. J'ai monté les autres contre lui, etc. Il a dit non. Et puis, à celui qui est un peu plus d'autorité que moi parmi les jeunes, il a été le voir. Et il lui a posé la question, il dit qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit c'est en tant que prêtre que je ne veux pas. Je dis en tant que prêtre, j'engage mon sacerdoce, il ne faut pas le faire. Et puis il est tombé malade. Il a été à l'hôpital. Alors on a été le voir à l'hôpital. Et on n'a pas fait l'absolution collective. Il avait raison. Et j'étais convaincu qu'il avait tort, moi. Mais en tant que chrétien, engagé, brillant, faisant raison, croyant vivre du Saint-Esprit, etc. J'étais persuadé qu'il avait tort. Ça n'est pas vrai. Le prêtre a un pouvoir de gouvernement. On comprend peut-être pas tout. Où qu'il soit, il a un pouvoir de gouvernement. Parce que lui, il porte Dieu et l'Esprit-Saint dans cette autorité de gouvernement, dans cette autorité sacerdotale. Et du coup, si c'est son sacerdoce qu'il engage, c'est exactement comme le pape quand il engage son infaillibilité. Et il n'est pas infaillible à chaque fois qu'il cause avec quelqu'un. Mais si, en tant que pape de la très sainte Église catholique, je proclame que Marie est Immaculée Conception, c'est infaillible. C'est en tant que pape, ah oui, en tant que Pierre. Alors, parmi le pouvoir du sacerdotal, il y a celui de gouvernement et celui aussi de l'enseignement, donc le catéchisme. La catéchèse, la doctrine, il a le devoir d'enseigner. À partir du moment où il se détache de l'infaillibilité apostolique et qu'il dit des choses contraires à ce que l'infaillibilité apostolique proclame, alors à ce moment-là, il se met en dehors de son sacerdoce. Et donc, ce n'est plus le prêtre qui parle. Donc, si certains prêtres critiquent le catéchisme de l'Église catholique, il se met en dehors de son sacerdoce, et donc, dans cette mesure-là, il n'est plus prêtre. C'est un homme. Vous avez entendu un homme parler, vous n'avez pas entendu un prêtre parler. C'est la dimension humaine qui s'est exprimée, ce n'est pas la dimension sacerdotale qui s'est exprimée. C'est tout. Alors du coup, c'est pour ça, quelle attitude avoir? Il n'y a qu'une seule attitude à avoir. C'est de lui dire, écoutez, si c'est possible, c'est de prier pour lui, c'est de faire des sacrifices pour lui, c'est de demander aux enfants de faire des sacrifices pour le curé de la paroisse, de faire beaucoup de sacrifices, etc. On a les prêtres qu'on mérite, il ne faut jamais oublier ça. Donc si on n'ose pas s'offrir en victime, ça veut dire qu'on ne veut pas enfanter le sacerdoce. Notre sacerdoce royal est source du sacerdoce ministériel. C'est le chef de gouvernement qui désigne les ministres. C'est le président de la République qui désigne le premier ministre. C'est le roi qui fait les ministres. C'est le sacerdoce royal des fidèles qui fait le sacerdoce ministériel. Et si, dans la communauté de la paroisse, je dirais, il n'y a pas plusieurs qui s'offrent en victime, qui s'offrent pour le prêtre, son sacerdoce n'adviendra pas, si vous voulez. Il va finir par mourir. Et alors, c'est l'homme qui va prendre la place. Ben, c'est Vatican II, hein, sacerdoce royal, sacerdoce ministériel. Si on a les prêtres qu'on mérite. Et donc, c'est les laïcs, maintenant, qui ont le rôle principal. C'est l'Esprit-Saint qui a décidé ça. Qu'ils ont rôle de source du sacerdoce, laquelle est source des sacrements, lesquels sont source de la grâce. Que doit-on penser des cérémonies pénitentielles? Est-ce que c'est valide? Que penser des prêtres qui sont réticents lorsqu'on est obligé d'aller les chercher pour se confesser? Eh bien, on fait exactement comme la femme hémorroïde qui saisit la frange du manteau du Christ quand il va ressusciter la fille de Jaïr, qui s'accroche, qui traîne, comme quelqu'un qui est accroché au char de Ben Hur, jusqu'à ce que Jésus fasse sortir son pardon, sa guérison. On fait comme ça, on s'accroche. Si j'ai soif, hein, sacrement de pénitence, si j'ai soif qui est centrale, j'ai soif. C'est le j'ai soif qui mérite la vie, la plénitude de grâce. Voici ta mère. Et la mission apostolique, voici ton fils. Et donc, il faut demander au prêtre, il faut supplier Jésus pour que, pour prier à sa place, il faut supplier Jésus pour qu'il soit disponible, il faut tout faire pour etc. Et oui. C'est certain, cérémonie pénitentielle. Mais bien sûr, les cérémonies pénitentielles sont valides. Ce n'est pas parce qu'on est ensemble, Mais du coup, les cérémonies pénitentielles, c'est parce que les gens sont psychologiques. Alors du coup, pour éviter qu'ils fassent une confession psychologique, on invente les cérémonies pénitentielles en disant comme ça, au moins, on dit, c'est objectif, ce péché-là, ça c'est un péché. Si vous avez fait ça, bon, ça c'est un péché. Alors on fait quelques lectures. Très bien. Et puis après, chacun doit aller voir chaque prêtre personnellement, puis dire au moins les 2-3 en 5 secondes, parce qu'au moins comme ça, c'est pas psychologique. Et il est décidé, évidemment, quand il y va, à renoncer à ce mal. Et donc, il y a la matière du sacrement, il y a l'absolution, donc il y a la forme, donc il y a l'effet. Donc c'est valide. Si c'est fait comme ça. Mais si c'est absolution collective, pas d'aveu personnel, c'est invalide de plein droit. Comment se situe la célébration pénitentielle par rapport à la confession individuelle? Peut-on imaginer la confession par des moyens audiovisuels, télévision, téléphone, etc.? Ah ben voilà, puisque... Au Minitel, elle dit... Et alors, chaque fois que je reçois le message, vous savez, c'est merveilleux. Par télécopieur aussi, par fax, alors. Et le prêtre, il met « Ego te absolvo », il renvoie. Ça y est, je pardonne. Bon, je vous l'ai dit, on l'a lu dans Saint Thomas, il faut la matière du sacrement, donc il faut quelque chose de corporel. C'était du reste la première objection que nous avions lue. Et donc il faut la présence physique. La matière corporelle est présente en ce sens que l'intention, la contrition, est dans la présence personnelle. Et donc il y a la matière. Mais par la voix de la télévision, par la voix du téléphone, par la voix des médias, non. Il n'y a pas la présence physique, donc il n'y a pas la matière. Je veux dire, il y a surtout, en tout cas, il n'y a pas la confession. Il n'y a pas ce qu'on appelle la confession, c'est-à-dire l'aveu en présence du sacramentum. Il y a bien le reste de sacramentum, si vous voulez. On peut à la rigueur dire, oui, je te pardonne tous tes péchés au téléphone. Mais il n'y a pas le sacramentum tantum. Donc il n'y a pas la confession, si vous voulez, physique. Il n'y a pas la présence sacramentelle. La confrontation sacramentelle avec le confesseur. C'est pour ça que ce n'est pas du tout inutile cette distinction de saint Augustin entre le signum, tres, le sacramentum, tantum, le res et sacramentum, et le res, tantum. Pas du tout. Alors, le trappeur isolé, il se confesse. Il a la res et sacramentum, donc il a le pardon des péchés. Il a la res, dès qu'il veut se confesser. Il a la res déjà. Mais dès qu'il a l'occasion de trouver un confesseur, il recevra l'absolution. 2 ans après, dès qu'il peut. C'est pour ça qu'en Chine, ils n'ont pas le temps. Ça fait 50 ans, certains villages, qu'ils n'ont pas eu l'occasion de rencontrer un seul prêtre. Et quand un prêtre va là-bas, etc., les gens viennent à bicyclette, dans la boue. Ils font 70 km à bicyclette pour venir se confesser. Alors, j'ai vu un prêtre comme ça, il m'a dit, je suis allé dans mon village natal, j'ai eu 2000 confessions en 3 jours. Et les gens venaient à bicyclette dans la boue. Ça faisait 40 ans qu'ils n'avaient pas pu rencontrer un prêtre. Ils avaient la res et sacramentum. Ils avaient la confession, ils étaient rentrés dedans. Et leur confession a ressemblé à celle du Christ d'une certaine manière, puisque ils ont été dans l'attente de toute une grande portion de leur vie avant d'avoir l'absolution de Pâques. Jésus aussi a été dans cette montée d'une confession. Il a obtenu l'absolution qu'à Pâques. J'ai peur de tomber dans la perversité à force de me répéter que mon péché est transformé en gloire. C'est pervers la gloire. Hein. Donc la perversité. Non, la perversité parce que j'ai peur de tomber dans l'orgueil. Et l'orgueil est pervers. Parce que c'est pas orgueilleux de dire mon péché est transformé en gloire. La gloire, c'est la victoire de l'amour sur le mal. Le mal est. La gloire, c'est la victoire de l'amour sur le mal. Mais l'orgueil, c'est le mal. La gloire, c'est d'être victime d'amour. Je n'ai plus peur de la souffrance. L'amour est tellement fort que je n'ai plus peur de la souffrance. Je peux m'offrir moi-même comme co-rédempteur, comme victime, dans le mystère de compassion, comme Marie. Et pour porter le péché du monde entier et être une stigmatisée, écrasée, porter les stigmates du Christ comme Saint François. Être broyé, être objet de dérision, de contradiction, de condamnation. Alors, non, vous savez, quand on est transformé en victime, croyez-moi, la tentation perverse de l'orgueil n'est pas là. Attention, ce n'est pas de l'autosuggestion. Me dire à force de me répéter, et on ne se le répète pas. Pas d'autosuggestion. Mes péchés sont pardonnés. Et laisse place à autre chose, à une mission. Et ma mission, c'est que les péchés non pardonnés, à travers cette béance, soient pardonnés aussi. C'est pour ça que je suis victime d'amour. Je me sépare du monde. Je me sépare des réjouissances de ce monde, d'une certaine manière, pour entrer dans la joie. Alors, vous voyez, il faut être très humble à ce moment-là, pour accepter d'être victime. Parce que quand on est victime, vous savez, on est très humilié quand on est victime. Je pourrais vous donner les détails, si vous voulez, de ce qui vous attend si vous faites le papier. Donc faites le papier, je vous en prie, vous verrez, c'est juteux. Et ça vaut la peine. N'hésitez pas, hein. Parce que quand Dieu demande, il donne de pouvoir. Hein. Il donne de pouvoir parce que si vous vous offrez, il vous donnera plus d'amour que ce que vous aurez à subir. C'est pour ça que c'est merveilleux. Plus de force d'amour que ce que vous avez à subir. Parce que c'est la grâce qu'il fait. C'est ça la miséricorde. C'est que l'amour est dans la misère. C'est dans la misère qu'il y a l'amour victorieux. La gloire est dans la misère. L'Esprit Saint, c'est cette spiration de gloire, elle est dans la blessure de l'agneau. Dans la blessure du cœur de Jésus ressuscité. C'est là que se trouve la gloire. C'est dans cette blessure, dans l'humiliation de ce que j'ai fait, ce que j'ai à subir. Alors, il n'y a pas d'orgueil possible, c'est ça la gloire. La gloire, c'est pas d'avoir reçu, comme je vous le disais l'autre jour, le premier prix. Dans la plupart des récits évangéliques où Jésus pardonne les péchés de celui ou celle qu'il rencontre ou qu'il rencontre, on peut retrouver les éléments du sacrement de pénitence. Par exemple, la pécheresse, c'est Simon, Zachée, le bon larron. Mais qu'en est-il, par exemple, du paralytique descendu par le toit à Capharnaüm? Capharnaüm, le vol Capharnaüm.
le capar du pardon, en Capharnaüm. Capar, c'est pardonner, je vous rappelle, en hébreu. Alors, oui, faudrait voir. Ben, faites-le, faites vous-même cette petite. C'est sûr qu'on va le faire, c'est très bien. Je ne sais pas, je ne l'ai pas fait, mais. Est-ce que vous avez. Celui qui me pose la question, est-ce qu'il peut me dire où est-ce que se trouve ce paralytique de Capharnaüm? Jésus étant donc monté dans la barque, chapitre 9, Matthieu, verset 1. Jésus étant donc monté dans la barque, repassa le lac et vint dans sa ville. Et voilà qu'on lui présenta un paralytique étendu sur un lit. Ben, vous avez déjà la confession pour ça. On lui présente le paralytique, c'est quoi? C'est le péché. Le péché, ça paralyse la vie, ça paralyse le cœur, ça paralyse notre union à Dieu. On n'est plus debout, on n'est plus la palme. Du Hoshana Rabba, n'est-ce pas? Alors, et voilà qu'on lui présenta un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon fils, aie confiance, tes péchés te sont remis. » Absolution. Aussitôt quelques scribes, dire aussitôt. Mais si vous voulez bien, il faut faire le parallèle avec Marc, chapitre 2, versets 1 à 12, parce qu'il y a plus d'éléments. C'est trop court dans Matthieu, alors on va voir dans Saint Marc. Quelque temps après, Jésus revint à Capharnaüm. Bon, dans Saint Matthieu, vous avez vu confession, absolution. Aussitôt quelques scribes dirent en eux-mêmes, cet homme blasphème. Et voilà le peuple de Dieu, n'est-ce pas, qui apparaît. Donc les représentants, voyez. Et Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, pourquoi pensez-vous le mal dans vos cœurs? Et du coup, on s'adresse au péché universel. Bon, donc vous avez les trois éléments ici. Hein. Donc confession, absolution, et puis satisfaction, indulgence. Donc, ça, c'est les trois, c'est les parties au fond potentielles du sacrement. Bon, maintenant, dans Saint Marc, quelque temps après, Jésus revint à Capharnaüm. Lorsqu'on sut qu'il était dans la maison, il s'y assembla aussitôt un si grand nombre de personnes qu'elles ne pouvaient trouver de place, même aux abords de la porte. Je suis la porte. Et il leur prêchait la parole. Il leur prêchait la parole. Prédication. Alors, donc l'ouverture à la vérité. L'ouverture à la vérité. La prédication, c'est pour la parole du Christ. La parole de Christ, c'est pour dévoiler, c'est pour faire un jugement. Je suis venu pour parler et faire un jugement à ce monde. Que le péché soit dévoilé. Et vous voyez, les trois. On va le retrouver ça. Pour que, opérer un jugement en ce monde. Donc, pour que le péché soit dévoilé, pour que le jugement soit dévoilé, et pour que. Je ne sais plus quoi. Vous vous rappelez de ce passage? On le relira de toute façon. Il est très important. Donc, il prêche. Alors, on lui amène un paralytique porté par quatre hommes. Voilà, quatre hommes, là, vous avez encore la demande du Hosanna qui est derrière ces quatre. Hein. La demande du Hosanna, on est avec donc les quatre branches qui représentent le cœur, qui représentent l'homme tout entier, qui représentent sa bouche, qui représentent ses yeux. Vous vous rappelez, donc la palme, le saule, la myrte et le sidra que les Juifs prennent le jour du Kippour, n'est-ce pas, et qu'ils agitent. Hein? Oui, c'est Soukhot. Oui, oui, c'est bien, on est bien entendu, mais Kippour et Soukhot, c'est la même fête.
Oui,
oui, mais Kippour et Soukhot, c'est la même fête. Kippour, c'est un jour. Et Soukot, c'est 10 jours. Le Hoshana Rabba, c'est 10 jours après Soukot. Le Hoshana Rabba, c'est-à-dire le dernier jour de Soukot, c'est 10 jours après le Kippour. Au Kippour, vous avez le verdict. On confesse ses péchés, il y a le verdict. Et puis après, il y a les 10 jours de Soukot. Et le dernier jour, il y a le Hoshana Rabba. C'est le grand jour. Alors, on lui amène un paralytique porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit à l'endroit où il était. Hein? Alors, voyez, donc, là, il apporte au Hoshana Rabba. Seigneur, prends pitié, contrition. Ça, c'est très net. Bon. Alors, ils découvrirent le toit à l'endroit où il était. Ah, on rentre dans le sacrement, présence du prêtre. Le sacrement, c'est par le haut. Sacramentum tantum. Et ils descendirent le grabat où gisait le paralytique. Jésus, voyant leur foi et voyant le paralytique, alors là, il voit le péché. Donc, aveu, dit, mon fils, tes péchés te sont remis, absolution. Vraiment, c'est tiré par les cheveux? Non, tu... Bon. Or, il y avait là quelques scribes assis qui pensaient dans leur cœur, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Victime. Il est victime. Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul? Tous les mécréants sont là. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit qu'il pensait ainsi en elle-même, dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Et ils demandent pardon à nouveau pour ce péché-là, pour que ces gars-là se convertissent à leur tour. Et voilà, le cycle de la confession qui reprend. Bon, faites-le vous-même, vous savez. Veuillez expliquer davantage comment on peut parvenir à recevoir l'absolution de nos péchés encore et encore, jusqu'à se recevoir nous-mêmes dans toute notre finalité, dans notre sainteté finale, et en même temps recevoir la plénitude de grâce qui est Marie. Bon. Je vais reformuler cette question, parce que peut-être vous n'avez pas compris la question, je ne sais pas. Veuillez expliquer davantage. Comment on peut parvenir à recevoir l'absolution de nos péchés une fois, puis on le renouvelle une deuxième fois, puis une troisième fois, jusqu'à ce qu'on reçoive le pardon qui est précisément notre sainteté finale. Et à travers cette sainteté finale, recevoir la sainteté suprême et totale et plénière qui est la sainteté, le Saint des Saints, c'est-à-dire l'Immaculée Conception, la Reine. Qui est le don parfait, le pardon maternel plénier. On passe du fils à la mère. Voici ton fils, voici ta mère. Mais dans l'absolution, nous recevons réellement la plénitude de ce premier pardon et de ce deuxième pardon. Nous recevons pleinement la présence réelle. Nous recevons la présence réelle de la mère et du fils. Le fils, c'est moi, dans ma sainteté finale, que je reçois là, ce jour-là, dans cet instant-là. Je le reçois là, je le touche en tout cas. Et si, vous voyez, je le touche dans le sacrement, dans le cœur, dans la présence du cœur ouvert de Jésus, ressuscité, glorifié. C'est là que je vais chercher et je m'en abreuve. Je l'ai intégralement. Je l'ai vitalement. Je le touche, non pas par la mendication, comme l'Eucharistie, mais par l'âme. C'est ma vie qui touche cette vie éternelle de ma sainteté finale. Je reçois l'état dans lequel je serai éternellement au ciel lorsque j'aurai une charité beaucoup plus grande, parce que j'espère que je vais rester encore 100 ans sur la terre, et que j'aurai le temps de multiplier ma charité chaque jour, chaque jour, chaque jour. Arrivé au ciel, fini, la charité n'augmente plus. On aura au ciel le même degré de charité que celui qu'on a sur la terre. C'est pour ça qu'il faut demander de vivre très vieux. Pas pour vivre très vieux et être là sur la tangente. Ah, non. Pour pouvoir balader, faire du ski et tout. Non. Du vol à voile. Non, non. Mais pour faire des actes d'amour, des actes d'amour, des actes d'amour. Des actes de service, des actes de patience. Des actes de foi, des actes d'adoration, des actes d'oraison, des actes de gratuité, des actes d'offrande, des actes de victimation, des actes de sainteté. À chaque acte, des actes sacramentels, à chaque acte, la charité augmente, à chaque fois, à chaque fois. Un saint, c'est actif, c'est pas du tout le paralytique. Spiritualité horizontale, non. La spiritualité horizontale, j'aime bien dire, c'est la spiritualité de la bouse de vache. Tandis que la spiritualité du saint, c'est la spiritualité du palmier, fusée du Saint-Esprit. C'est très actif. Il y a toujours du combustible. C'est le baptême qui nous donne ce combustible. Et donc, je n'ai pas besoin de recevoir l'absolution une nouvelle fois pour avoir cette présence, une présence plus grande de ma sainteté. J'ai la même présence de ma sainteté. Mais c'est peut-être l'unité avec cette reste. Le sacrement, dans l'action de grâce qui suit la pénitence, qui se fait, qui se pénètre plus facilement avec ce que je vis maintenant. Ça, c'est possible. Que vous voyez, mais cette sainteté, je l'ai. Et puis, donc, c'est pas la quantité des absolutions. Oui, une absolution. Nous sommes conscients de nos fautes. Je vais me reconfesser une dixième fois pour le même péché, parce que ce péché-là excite encore en moi la contrition. Vous allez voir le Père Emmanuel. Hein. Que vous savez très bien, et quand vous alliez vous confesser au Père Emmanuel, eh ben, il vous disait, bon, mais mon Père, je ne sais pas quoi vous dire, je ne vois pas quel péché c'est fait, depuis la dernière confession.
Non, mais il suffit que tu me dises un péché, vraiment, qui te met la confession, même si tu l'as fait il y a 20 ans, il y a 5 ans, bon, ça se dégage. La confession! Alors dis-moi le péché qui te met dans un état de contrition, tout simplement.
Alors tu répétais une dixième fois ce péché, dans dis non, c'est un péché que j'aime pas dire.
Mais justement, oui. Allez, hop, à couche.
Alors, c'est la contrition qui est la matière. Alors, vous redites ce péché. Et vous recevez l'absolution. Vous recevez un sacrement. Donc, votre charité augmente. Parce qu'à chaque fois que vous recevez un sacrement, votre charité augmente. Donc, votre grâce sanctifiante augmente. Donc, votre sainteté augmente. Ça, c'est sûr. Et donc, votre capacité à faire que la reste du sacrement, qui est toujours la même, pénètre dans votre peau, dans votre cœur, votre esprit, est plus grande. Au début, vous étiez une espèce de bloc d'acier. On mettait la reste du sacrement dessus. Ça mouillait l'acier. Et à la fin de votre vie, vous êtes une éponge. On met la reste dessus. La reste rentre. Mais c'est la même reste. C'est la même sainteté qui vous est donnée. J'aimerais... C'est le sacrement de l'espérance. Rappelez-vous que le sacrement de l'espérance, hein, le sacrement de la foi, c'est que vous sortez de vous-même. Et le sacrement de l'espérance, le sacrement de l'espérance, c'est vous recevez la grâce, hein, l'espérance, la plénitude de grâce. Vous rentrez dans la plénitude de grâce. C'est les chutes du Niagara, vous rentrez dans un océan de grâce. Vous êtes englouti dans l'océan immaculé des grâces de la Vierge, de la Trinité, de l'Assomption, de la Résurrection, de la Confession du Saint-Esprit. dans le mystère de l'Immaculée Conception. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des indulgences par la confession? Oui, on peut parler des indulgences par la confession en disant effectivement, il y a la matière du sacrement, la forme du sacrement et l'effet du sacrement. Dans l'effet du sacrement, c'est la rémission des péchés. Donc, tous vos péchés sont remis. Tous vos péchés sont remis, mais les conséquences, ce à quoi votre péché a été attaché, ne sont pas remis. Les péchés des autres ne sont pas remis, d'une part. Peut-être que votre péché a engendré dans le cœur de quelqu'un d'autre un péché. Ça, c'est pas remis. Vous avez donné un mauvais exemple. Et lui, du coup, il a péché. Tout ça, c'est pas remis. Et donc, il reste, votre péché reste quelque part, même à l'état de péché. Et donc, c'est pour ça que vous êtes plus dans le péché collectif qu'avant. Est plus responsable après l'absolution qu'avant. C'est du reste une des souffrances. Alors c'est pour ça que quand Jésus a donné à Saint-Pierre et aux apôtres le pouvoir des clés, il lui a donné le pouvoir de donner l'amour aux pécheurs, le pouvoir de donner la miséricorde aux pécheurs, de pouvoir donner le pardon aux pécheurs. Alors, c'est pour ça que, vous voyez, quand vous faites un péché, du coup, vous perdez la grâce sanctifiante. Vous avez la tâche dans votre âme. Et c'est le cosmos tout entier, l'humanité tout entière, ceux qui sont proches de vous, qui sont éclaboussés. Il y a trois effets au péché. Et donc, la miséricorde du Christ va faire miséricorde sur tout. Et il donne le pouvoir des clés à l'Église pour pardonner tout, laver tout. Alors, qu'est-ce qui vous redonne la grâce? Ce qui vous redonne la grâce, c'est le sacrement. Du moins, c'est le sacrement, c'est l'absolution qui enlève la tache dans l'âme, le péché mortel. La tache. La culpa. La grâce vous est déjà donnée dans la res et sacramentum, dans la contrition, pour retrouver la grâce. Mais les conséquences de votre péché, les mauvaises habitudes, par exemple. Ah, les mauvaises habitudes, vous avez pris un pli en faisant ça. La première fois que vous avez menti, ça a été atroce. Quand vous aviez 9 ans, vous avez menti. En face. Ça a été atroce. Ça vous a fait quelque chose dans votre conscience. Mais la deuxième fois, c'est... Vous n'en rappelez plus. La première fois, vous en rappelez. La première fois que vous avez volé. Vous en rappelez. La deuxième fois, la première fois que vous avez pratiqué l'adultère, ça vous en rappelez, mais la 72e fois, et donc il y a un pli qui est pris, c'est pour ça qu'il faut la pénitence sacramentelle, c'est pour vous remettre ce pli. Il y a aussi l'exhortation avec les conseils. C'est pour vous remettre dans ce pli. Vous devez obéir. Et vous avez enfin le ferme propos, la résolution de ne plus recommencer. C'est aussi pour battre contre ce pli. Il faut que ces trois soient vivifiés et vivifiants et vécus et respectés. Sinon, vous êtes dans l'ingratitude par rapport au sacrement. Et saint Thomas a 7 questions sur l'ingratitude à propos du sacrement de pénitence. C'est le seul péché qu'on fait contre le sacrement. On peut faire des péchés contre l'Eucharistie, des messes noires, et on fait le péché contre le sacrement de pénitence, c'est l'ingratitude. On nous a tout donné et on ne fait rien pour réparer. Il faut faire pénitence. C'est dur, hein? Saint Thomas est assez... d'Aquin, docteur principal de l'Église, docteur principal. Donc, mais il y a le cosmos, il y a tout le monde des végétaux, il y a toute l'humanité, il y a tout le monde de la vie. On le voit bien dans l'arche de Noé, il faut faire rentrer tous les animaux, tous les oiseaux, il faut faire rentrer tout le monde animal. Donc il y a tout le monde des vivants. C'est sûr, ça. Et dans la liturgie de Soukhot, eh bien, on demande quand même que la terre donne des fruits, que les plantes vivent quand même. On demande on demande qu'il y ait la paix dans la cité, qu'il n'y ait pas la guerre. On demande, bien sûr, on demande la rémission morale et spirituelle, et on demande l'unité de l'humanité. Mais on demande donc aussi, vous voyez, du point de vue des plantes. Donc avec Noé, on voit qu'il y a le monde animal. Avec la fête de Soukhot, on s'aperçoit qu'il y a tout le monde végétal. Le monde de la... Alors, tout ça, alors comment est-ce qu'on va faire? Alors là, il y a les indulgences. Il y a les indulgences. Et le pouvoir des clés a été remis à Saint-Pierre. L'Église peut vous permettre de faire miséricorde. Vous avez reçu miséricorde pour vous. Vous devez faire miséricorde, faire que cette miséricorde se répande à tous ces éléments innocents ou coupables. Et ça, c'est l'indulgence plénière, vous savez. C'est une œuvre de miséricorde. Vous avez reçu pour vous, c'est normal quand même, que vous demandiez miséricorde pour ceux que vous avez éclaboussés. Vous avez été éclaboussé par votre propre péché, mais en même temps, votre propre péché, c'est vrai, vous êtes une pierre, vous avez été mis dans la boue. Alors votre boue, vous êtes tout boueux, la pierre. Alors on nettoie bien la pierre, mais toutes les bagnoles qui ont été complètement boueuses, ah non, ça, moi ça va, j'ai été pardonné. Et non, il faut utiliser les indulgences. C'est à cause du protestantisme et Luther qu'on ne veut plus utiliser les indulgences. Ça veut dire qu'on refuse. On veut bien recevoir le pardon et la miséricorde pour nous, mais on refuse d'être instrument de miséricorde pour ceux qu'on a blessés dans l'univers, dans l'humanité, dans l'Église. C'est pour ça qu'il faut les indulgences. Et ça fait partie... Ça fait partie de la pénitence. Dans la pénitence, les trois parties potentielles de la pénitence, c'est le fait d'être contrit, d'avoir la confession des péchés, de demander l'absolution tout seul. C'est le sacrement avec le mystère de la confession, et ça reste. C'est la satisfaction de la peine, c'est-à-dire les indulgences. Et si je reçois effectivement la reste du sacrement sans me préoccuper ici de la satisfaction de la peine, et les indulgences sont un moyen de s'en occuper, c'est le purgatoire. Si je reçois l'absolution à ma mort de mes péchés, je ne vais pas directement au ciel, pas du tout. Je dois aller au purgatoire. C'est toutes les conséquences dues au péché qui doivent le purgatoire. C'est pas magique. C'est pas de la magie. Je suis responsable. Mon Dieu ne veut pas du tout que je sois non, alors c'est comment ça marche ces indulgences, dites-toi. Alors l'Église, Pape Paul VI a refait tout le système des indulgences, il a fait un enchiridion indulgensaro. Alors il dit c'est très simple. Vous avez deux grands moyens pour obtenir l'indulgence plénière. Si vous faites un acte de charité parfait, il faut être en état de grâce, il faut faire oraison, il faut supplier Jésus d'être là, jusqu'à ce que l'Esprit Saint soit là. Quand l'Esprit Saint vous prend complètement, ça y est, vous dites, je me livre entièrement à tout amour. Là, ça y est, vous délivrez l'indulgence sur tout le reste. Mais si vous n'êtes pas capable de faire un acte de charité parfait, parce que vous êtes un pauvre type, parce que vous ne savez pas, parce que vous ne faites pas oraison, parce que vous êtes pas, soi-disant, « Oh, ça, c'est pour les contemplatifs, c'est pour les bonnes sœurs, c'est pour moi, ça. » Alors, non, ratati, ratata. Alors, vous avez les indulgences facilos. Facilos pour les éléphants, très bien. Vous avez les indulgences. Mais oui, c'est ça. Alors, il faut que j'apprenne à faire un acte de charité. Donc, c'est une miséricorde de l'Église de dire, « Bon, ben voilà, je vais vous faire... »
un acte de charité décomposé en cinq. Ah, encore cinq. Encore cinq. Curieuse cette histoire de cinq. Il faut quatre conditions pour recevoir l'indulgence plénière. Et je peux recevoir l'indulgence plénière pour une âme du purgatoire. Elle va aussitôt au ciel. Hein. Vous choisissez une âme du purgatoire que vous connaissez. Vous faites l'indulgence. Elle va aussitôt au ciel. Aussitôt. Si vous obtenez l'indulgence pour elle, hein. Vous pouvez obtenir l'indulgence pour vous. C'est-à-dire pour les conséquences de vos péchés sur les autres. Hein. Alors, il faut s'être confessé dans la semaine. Ah ben oui, faut être quand même. C'est lié au sacrement et au mystère de la confession. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Rémission des péchés. Satisfaction, ça en fait partie. Donc il faut s'être confessé dans la semaine. Parce que c'est toute la création et le travail se fait en 7 jours. C'est toujours en 7 jours. Donc si vous laissez passer la semaine, le travail, c'est un travail, c'est une transformation de l'univers. Eh bien, ne se fait pas. Premièrement, il faut cette confession. Deuxièmement, il faut avoir communié ce jour-là. Il faut avoir communié ce jour-là. Troisièmement, il faut faire un acte d'adoration parfait. Ah. Ou la formule du pape, c'est de dire, il faut faire un acte d'adoration, le Seigneur est en train de me créer. Et du coup, je lui donne tout. Parce que c'est très difficile d'être un saint, c'est très difficile d'être un saint pendant 3 heures de suite, pendant 8 heures de suite. Mais être un saint pendant 2 secondes, c'est facile. Un enfant le fait, il suffit de lui expliquer. Pendant 2 secondes, t'es un saint. Ça veut dire que pendant 2 secondes, tu dis, Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint. Il n'y a plus que l'amour, il n'y a plus que toi, il n'y a plus que Jésus. Moi, je ne vis plus, il n'y a plus que Jésus qui vit en moi, Jésus ressuscité. Entièrement, qui a horreur de tous les péchés, de toute attache au péché, de toute complicité avec le péché, quelle qu'elle soit, même la plus infime. Là, c'est ça que je vis. 2 secondes. Alors, évidemment, pendant 3 heures de suite, ce n'est pas possible. Mais pendant 2 secondes, oui. De ce jour-là, il faut faire un acte d'adoration parfait qui implique le détachement de tout péché, même le plus infime qui soit, la moindre complicité, quelle qu'elle soit, avec quelconque péché que ce soit. C'est facile, pendant 2 secondes, c'est facile. Pendant 1 semaine de suite, très difficile. Et ce jour-là, il faut avoir fait un acte de détachement complet de toute complicité avec le péché, quel qu'il soit. Ça, c'est normal. Lâchez-moi les baskets, ça. Vous dites à vos péchés, lâchez-moi les baskets. Wow. Il n'y a plus que Jésus, pour moi. Quatrièmement, il faut prier pour le pape, il faut prier au nom du pape, il faut prier aux intentions du pape. C'est-à-dire, il faut se mettre dans la peau du pape. Le pape n'a pas le temps de prier, il a trop de choses à faire. Il devrait prier 5 fois plus qu'une carmélite, qui elle prie 18 heures sur 24. Et donc, il veut prier 5 fois plus, mais il ne peut pas. Alors, il faut prier à sa place. Et pendant que vous priez, Notre Père, je vous salue Marie, ça suffit. Mais vous priez, vous mettez dans sa peau. Pendant ces Notre Père, je vous salue Marie, le pape, c'est vous. C'est-à-dire que toute l'Église est sur vos épaules. Le destin de l'humanité est sur vos épaules. C'est le Christ sur la terre, c'est vous, c'est le pape. Et vous dites Notre Père à sa place, en son nom, pour lui, comme lui. Et c'est vous qui réellement êtes devant Dieu responsable. Vous êtes le pape pendant ce Notre Père, pendant je vous salue Marie. Prier en son nom. Quatrième condition. Cinquième condition, il faut avoir l'intention de recevoir l'indulgence dans l'œuvre que l'Église propose pour recevoir l'indulgence. Ah. Oui, parce que, par exemple, je me mets, quelles sont les œuvres? Alors là, il y a beaucoup d'œuvres qui me permettent de recevoir, il y a des centaines d'œuvres qui me permettent de recevoir l'indulgence plénière. Je me mets devant la télévision, je me mets à genoux, je reçois la bénédiction du pape Urbi et Orbi à Pâques, indulgence plénière. Mais je peux très bien me mettre devant le poste de télé, dire tiens, il y a le pape qui vient, oh ben ouais, je fais ça, mais je n'ai pas du tout l'intention de recevoir l'indulgence plénière. Je veux, ouais, ben tiens, le pape qui met. Mais si je le fais dans l'intention qu'il y ait, oui, l'indulgence plénière, d'être canal pour que ça passe. Il faut avoir l'intention de recevoir l'indulgence plénière. Bon, autre moyen de recevoir l'indulgence plénière, vous assistez à une messe de première communion, indulgence plénière. Vous assistez à une ordination sacerdotale, indulgence plénière. Vous assistez à une messe anniversaire d'ordination sacerdotale du prêtre, indulgence plénière. Vous assistez à une messe conventuelle d'une communauté religieuse, messe communautaire, indulgence plénière. Vous allez à un calca, par exemple, vous assistez à la messe conventuelle, indulgence plénière, une messe solennelle chantée, vous voyez, conventuelle. Vous mettez devant le vous mettez devant le Saint-Sacrement exposé, plus d'une demi-heure, indulgence plénière. Vous vous mettez devant le tabernacle, parce qu'il n'y a pas le Saint-Sacrement exposé, devant le tabernacle. Et puis vous dites, je crois en Dieu, notre Père, trois je vous salue Marie, et les cinq mystères glorieux du rosaire. Indulgence plénière. Et si vous ne pouvez pas rentrer dans l'église, alors vous dites le chapelet des mystères glorieux à au moins deux personnes, à plusieurs. Indulgence plénière, parce que quand on est deux, présence réelle du Christ. Donc il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup de choses pour obtenir l'indulgence plénière, beaucoup de possibilités. Mais si vous n'êtes pas confessé dans la semaine, ça ne marche pas. Si vous n'avez pas prié pour le pape ce jour-là, ça ne marche pas. Si vous n'avez pas fait l'adoration ce jour-là, ça ne marche pas. Si vous n'avez pas communié ce jour-là, ça ne marche pas. Et pour ça, c'est pour ça que vous assistez à la messe en disant, bon, on vous prévient, la bénédiction du pape donne l'indulgence plénière. Ah, si, qu'alors, je vais venir, on me confesser, pas question. Ah, ben, pas d'indulgence plénière. Ah, alors ces cinq éléments. Pourquoi ces cinq éléments sont-ils, correspondent-ils à un acte de charité parfait? Ben, tout simplement parce que l'acte d'adoration me lie au Créateur. Et le Créateur est lié à tout le cosmos, c'est à toute la création. Donc c'est tout le point de vue cosmique, tout le point de vue de la création, qui est à l'intérieur de cette indulgence. D'accord? Avec le point de vue du pape, c'est tout le corps mystique de l'Église, puisque l'Église aussi a été éclaboussée par un de ses membres. Donc, à travers le pape, c'est toute l'Église que je réintègre dans le mystère de la confession que j'ai reçu et qui est lavé à son tour des conséquences de mes péchés. Bon. À travers la communion au corps du Christ, c'est toute l'humanité. C'est l'Adam nouveau, hein, c'est l'Adam glorifié, c'est l'homme, celui qui a porté les péchés de tous les hommes. Donc c'est toute l'humanité qui est intégrée. Bon, et à travers la confession, c'est moi-même à nouveau dans les conséquences qui sont périphériques par rapport à moi. Parce que le sacrement, lui, il ne m'a donné l'absolution que par rapport à l'âme et par rapport à la culpa. Et par rapport à la perte de la grâce sanctifiante, mais pas sur le reste. Donc il faut effectivement la confession, ce qui est une évidence même. Et il faut l'intention de recevoir l'indulgence, ce qui est parfaitement normal, parce qu'il faut l'intention quand même que cet amour de Dieu se répande sur tous ces éléments. Ça c'est normal. Et c'est vrai que quand on fait un acte de charité parfait, eh bien, il y a toute l'Église, tout le corps mystique de Jésus qui est là. Il y a toute la rémission des péchés qui est là. C'est vrai. Et il y a toute la gloire de Dieu dans l'éternité où il y a tout, tout est là. Il y a ma sainteté qui est là, tout est là. Effectivement, et tous les éléments épars qu'on trouve dans l'indulgence sont là. C'est facile à comprendre. Mais si les indulgences vous répugnent parce que ça vous paraît être de la petite cuisine, comme dit Luther. Alors, à ce moment-là, si c'est de la petite cuisine, faites des actes de charité parfaits. Moi, je vous encourage à faire des actes de charité parfaits. C'est beaucoup mieux, je suis tout à fait d'accord, beaucoup mieux. Parce qu'un acte de charité parfait peut produire des indulgences 100 fois plus qu'une indulgence plénière. Par une indulgence plénière, vous sauvez une âme du purgatoire. Mais un acte de charité parfait, si c'est vraiment un acte de charité parfait, peut délivrer 100, 200, 500, 1000 âmes du purgatoire. Vous pouvez vider le purgatoire. Donc il vaut mieux apprendre à faire des actes de charité parfaits. Mais on s'entraîne à vivre d'un acte de charité parfait en joignant don et accueil, l'Eucharistie, la pénitence, l'Eucharistie et la confession, le pape. Attends, l'Eucharistie, n'est-ce pas? La confession, l'Église, le pape, le monde. Et la très sainte Trinité, le Créateur, adoration parfaite, c'est sûr. C'est quand tout est présent, dans l'amour, il n'y a plus qu'une seule joie unique pour tout le monde. Ça va pour l'indulgence? Oui. Oui.
On disait qu'il fallait se confesser dans la semaine, terminer ce jour-là.
Oui.
Le jour où
tu fais l'œuvre qui te donne l'indulgence. Le jour où tu reçois la bénédiction du pape Urbi et Orbi. Je dis bien que si tu te confesses tous les 15 jours, si tu communies tous les jours, si tu fais oraison en pleine ferveur tous les jours, si tu fais simplement un acte d'adoration parfait 5 secondes chaque jour, c'est une règle pour toi, si tu pries pour le pape tous les jours, tu peux obtenir une indulgence plénière chaque jour. À la fin de l'année, tu auras délivré 365 âmes du purgatoire. C'est quand même sympathique. Si on faisait tous ça, regarde.
D'accord, dans la semaine qui précède ou bien la semaine qui annonce?
Là, une semaine avant, une semaine après. C'est pour ça que si tu te confesses tous les 15 jours, tu as forcément. Tu es dans une semaine. Tu as forcément une confession dans la semaine. Hein. Chaque jour. Ben si, parce qu'on ne vous l'enseignait pas. On vous disait indulgence 200 jours, indulgence 800 jours, indulgence 1000 jours, indulgence plénière. Donc maintenant, le pape Paul VI a supprimé ça, il a dit ou indulgence partielle, donc en fonction de votre foi, de votre charité, ou indulgence plénière. Mais les quatre conditions dont je vous ai parlé, c'était valable de toujours. C'était valable, ça a toujours été valable. Oui, oui, bien. Ça n'a pas changé, ça.
Il y a les huilés, il y a les.
Oui, les années saintes, c'est pareil. Années saintes, indulgence plénière. Quand vous passez. C'est vrai. Mais il faut communier sur là, vous confesser sur là, prier pour le pape et vous détacher de tout péché.
Tous les saints, pour la Toussaint aussi. Pour le.
Oui, à la Toussaint. Si vous allez dans le cimetière et que vous priez. Vous, si vous êtes confessé dans la semaine, que vous communiez ce jour-là, que vous priez pour le pape ce jour-là, que vous vous détachez de tout péché ce jour-là, et que vous priez dans le cimetière pour les morts, vous avez l'indulgence, vous obtenez l'indulgence plénière pour un des membres du cimetière pour qui vous priez.
Ça, il y a 30 ou 40 ans qu'on ne l'a pas entendu.
Mais voilà, maintenant vous l'avez entendu. Alors, comment savoir qu'un acte de charité est parfait? Eh bien, c'est facile. Ben quoi, c'est facile, savoir si un acte de charité est parfait. C'est l'Esprit Saint qui fait qu'il est parfait. Si, on peut le savoir, bien sûr, on peut. Ah non, si ça sort du cœur, c'est humain. Donc c'est pas un acte de charité, c'est surnaturel, là, l'acte de charité. Oui, mais attention, si, quand même. Oui, d'accord, mais enfin, on a des petits signes, quand même, que là, oui, ça, c'est un acte de charité parfait. Si, par exemple, tu fais un acte de charité, tu fais oraison. Comment fait-on oraison? That's the question, yeah? Parce qu'au fond, c'est ça. Faire un acte de charité parfait, ça revient à rentrer dans le mystère de la confession. C'est ça, le mystère de la confession. Et donc, l'oraison. J'espère que vous comprenez à travers ce que le pape Paul VI vient de dire à propos des indulgences, que l'acte de charité parfait, c'est la clé de voûte finale du mystère de la confession. Parce que c'est vrai que l'espérance se termine à la charité parfaite. Et la foi n'accède à la charité parfaite que par l'espérance. parce que la foi est reçue dans l'intelligence et l'espérance est reçue dans le cœur. Donc si vous vivez que de l'Eucharistie et pas du tout du mystère de la confession, il n'y a aucun problème, vous n'arriverez jamais à la charité parfaite. Parce que c'est le sacrement de la foi, puis l'autre c'est le sacrement de l'espérance. Alors, l'oraison. Oui, dans l'oraison, vous donnez votre temps à Jésus. Vous vous arrêtez. Il se fit un silence d'environ une demi-heure. Apocalypse. C'est un temps d'espérance. Pendant ce temps-là, comme vous êtes dans le monde, que vous avez des responsabilités, des préoccupations, vous êtes plein de trucs, ne faites pas comme le gourou qui cherche la réalisation dans le samadhi sans racine pour s'identifier aux principes non manifestés. Non. Alors, ne faites pas le vide. C'est pas ça. Il ne s'agit pas de faire le vide. Pas du tout. Dans l'oraison, on ne fait pas le vide. Ça, c'est du zen, du zazen. Jésus ne veut pas ça. Jésus a horreur du vide. Parce que dans le vide, c'est le principe d'entropie, vous savez. Vous mettez dans le vide un tout petit peu de gaz, ouit, il remplit toute la... Alors, il y a toujours du gaz. Si vous mettez le vide, c'est quoi le gaz? C'est les puissances intermédiaires. Et elles remplissent tout le terrain. Jésus a horreur du vide. Il faut remplir d'amour. Il faut remplir de Jésus. Il faut remplir de grâce. Il faut faire le plein de l'Église. Il faut faire le plein de la grâce. Il faut faire le plein. Ouvre et que les vannes descendent. Chute du Niagara. J'en veux plus. J'ai tout l'amour de Dieu cette fois-ci. J'ai tout l'amour de Dieu. Ça y est. J'ai tout l'amour de Dieu. Tu rigoles. Allez, encore d'autres. L'amour de Dieu est beaucoup plus grand que ça. Allez, hop, en avant. Tu fais des actes d'amour, un acte de conquête. Allez, Jésus, toujours Jésus, Jésus. Je t'en supplie encore. Encore plus. Jésus, c'est toi que je veux. Uniquement toi. Toi seulement. C'est une conquête, l'oraison. C'est Jésus. Yehovah, Yod, Evav, et Yeshua, Jésus. Père, Fils, Saint-Esprit, la grâce, l'Immaculée, tout. Jésus dans son corps mystique. Allez, en avant, tout. Je veux tout. Ça y est, j'ai tout. Mais j'en veux davantage encore. Allez, en avant. L'amour ne s'arrête jamais. Je fais des actes d'amour, des actes de foi. Je crois en Jésus, je rentre en lui. Je suis jamais rentré en lui suffisamment. Jamais assez dans son cœur, à l'intérieur, dans la fournaise ardente. Mais dans le fond, dans le verbe, qui spirise plus ça. Allez, hop, en avant. Ah oui, ah, c'était un peu psychologique. Alors spirituellement maintenant, allez, hop. Comment ça, c'est épuisant? Pas du tout. Jésus, toujours Jésus. Et pendant 5 minutes, 10 minutes, je fais des actes, des vrais actes. J'ouvre encore plus. Et Dieu m'aime, et il m'étreint, il m'aime encore plus que je l'aime quand je fais ça. Beaucoup plus intensément. Moi, je fais un acte d'amour toutes les 3 secondes hein, en faisant ça. Mais lui, il fait. C'est Gaston Bardet qui dit, il fait 17 actes d'amour par seconde, je crois pas. Mais, oui, parce que ça, c'est la fréquence des ondes alpha du névrax. Hein. Alors, j'irai jamais aussi vite que Dieu. Alors, c'est un combat d'amour entre Dieu et moi, jusqu'à ce que le combat soit à égalité. Ça y est. Le combat est à égalité. Allez, c'est lequel qui aime le plus? C'est l'Esprit Saint en moi ou c'est Jésus qui c'est le combat de Jacob. C'est lequel qui aime le plus? Allez, hop, c'est moi. Ah, ça y est, je l'ai bien eu. Parfait, mais non, c'est lui qui m'aime. Allez, hop, je reprends. Et je fais des actes d'amour. Je fais des actes intérieurs d'amour, des actes extérieurs des amours, des actes physiques d'amour, des actes... Je fais des actes d'amour. Jésus, toujours Jésus. Je ne veux que Jésus. Ah merde, il y a l'omelette qui est en train de brûler sur le feu. C'est pas grave, ça.
je laisse l'omelette. Ce temps a été réservé à Jésus et je laisse l'omelette. Je laisse les illusions diaboliques. Je ne m'en occupe pas, l'omelette. Je demanderai à mon mari d'acheter une autre poêle et puis c'est tout. Allez, et qui est que Jésus, qui est que Jésus, Jésus, sauve-moi de toutes ces bêtises. Allez, hop. Qui est que Jésus sauveur, qui remplace tout, qui est que Jésus dans ma tête, que Jésus dans mon imagination, que Jésus dans ma psychologie, que Jésus dans mon cœur, que Jésus dans mes mains, que Jésus dans mes pieds, que Jésus dans mon sang, dans mes nerfs, dans mon cerveau, dans mes neurones, dans ma respiration, dans le sang qui circule, Jésus partout, Jésus, dans tous ceux que j'aime, Jésus partout, Jésus, qui est que Jésus, allez hop, ah, je t'aime, ah, je t'aime Jésus. Jésus ne veut que toi, je ne veux rien d'autre que Jésus. Ouais, là, je me gonfle un peu, hein. Alors donc, pardon Seigneur, qu'il n'y ait plus que toi vraiment, que moi je disparaisse, qu'il n'y ait plus que Jésus. Et je fais des actes pour Jésus. Au bout d'un certain temps, si vous faites ça, je vous donne 7 minutes. Si vous faites ça, hein, je vous donne 7 minutes. À un moment donné, vous voyez qu'il y a quelque chose qui apparaît. C'est que Jésus dit, laisse, c'est l'Esprit Saint maintenant. Alors quand c'est l'Esprit Saint, vous laissez faire l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint qui prend, qui souffle. Et ça se reconnaît à cause de quelque chose de très, 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 très discret. De très, 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 très léger. De très, 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 très délicat. Une saveur qui te passe complètement, mais qui est imperceptible. Mais c'est l'Esprit Saint. Qui se répond. Là, vous êtes dans un acte de charité parfait. Et l'oraison, c'est de faire que ça, ça dure. Jusqu'à ce que votre montre sonne. Que vous avez mis votre montre à une demi-heure. Et si jamais l'Esprit Saint commence à se... Je recommande des actes d'amour pour Jésus, qui n'est plus que Jésus, qui n'est plus que l'Esprit Saint. Je recommence, pardon, si je recommence. Et jusqu'à ce que la montre ait sonné. Parce que j'ai décidé au départ le temps que je donnerai à Dieu et je ne dois pas le diminuer. Ça, c'est les règles de l'oraison. Tout à fait différent du zazen, hein. Vous vous sentez bien, c'est pas, on ne fait pas le vide, on fait le plein et du coup tout le reste dégage. Parce que dans le zazen, on dégage tout. Du coup, il y a la place pour qui ? Pour rien, c'est-à-dire pour le démon. Parce que le démon, c'est rien du tout. Il y a de place pour le moi. C'est ce que disent les nanines. Les nanines du Jnana Yoga, n'est-ce pas ? Il ne reste plus que le soi. Il ne reste plus que le soi. Voilà, qui prend possession de tout. Au-delà du temps et de l'espace, disent-ils. Au-delà de ce monde cosmique, il y a le soi. Je suis au-dessus. J'enveloppe le monde. C'est moi. Donc je suis Bouddha, je suis Dieu. Je suis comme Lucifer, pareil. Ça, je suis très sévère pour le zazen. Très sévère. Et ceux qui s'occupent du zazen seront très surpris. Mais ceux qui ont fait beaucoup de zazen, il faut... On est obligé de les exorciser. Si jamais ils se convertissent au christianisme. Je connais le cas, par exemple, d'un qui est devenu finalement... prêtre, et bien finalement il a fallu l'exorciser. Ça se voyait pas, hein. On croyait, ben non, Zazen, ça l'a préparé. Non. Finalement il était possédé par un démon. Il s'en aurait donc, vous savez comment ? Un jour en concélébrant avec un prêtre, et pendant qu'il concélébrait avec ce prêtre, d'un seul coup, je sais pas, il sentait monter des blasphèmes, des envies de sacrilège par rapport à l'Eucharistie. Et à la sacristie, il a dit ce... Oui. Donc pendant 15 ans, après être sorti du zazen et tout ça, il est resté 20 ans, hein, dans ses pratiques. Mais en pleine bonne volonté. Hein.
à la sacristie, il a dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais si je suis fait ça. Et le prêtre lui a dit, qui présidait la célébration, la concélébration, il a dit, c'est pas étonnant, je suis l'exorciste du diocèse. Alors, effectivement, il y avait un sacré toto. Et il ne le savait pas, le démon se cache toujours derrière des choses séduisantes. La charité, elle démasque le démon. Elle le détache de tous ses subterfuges, de toutes ses simagrées, de toutes ses grimaces, de toutes ses séductions, de tous ses pièges, de tous ses mensonges. Et il se montre comme bien, quoi. La paix, la lumière, la compassion, la tolérance et tout. Ah ça, il a beau visage. Mais il n'a pas le mystère de la confession. Il est lié au péché, il est pas. D'une certaine manière. J'aimerais que vous nous parliez davantage de Marie l'Immaculée en tant que prêtresse et victime, dès l'instant où elle porte en elle Jésus dans son immaculation, dans son immaculisation, comment a-t-elle pu l'accompagner dans son expérience du péché? C'est ce que nous verrons demain. Comment l'Esprit Saint est la confession dans la très sainte Trinité, à travers le cœur blessé de l'agneau, et comment l'Immaculée Conception est la confession de la femme dans l'humanité glorifiée du Christ. Ce sont les deux aspects sûrement les plus beaux du mystère de la confession. On va essayer de regarder ça demain, si Dieu nous en donne la grâce. Si vous permettez, je vous demanderai de rester silencieux et de faire oraison. Dur, hein? Mais là, tous ceux qui sont dehors, dites-leur. Ceux qui ne sont pas rentrés parce qu'ils sont fatigués. Puisque vous êtes fatigués, reposez-vous dans le